Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver en ce mercredi 15 mai. Hier s'est ouvert donc le Festival de Cannes, 72e édition de cette grande manifestation dédiée aux films et aux industries du cinéma. Et le festival donc s'est ouvert hier avec le dernier film de Jim Jarmusch et sa brochette de stars déguisées en vampires. Et à chaque fois que le Festival de Cannes revient, c'est la même question qui revient avec. Faut-il y aller ou pas? Ceux qui sont allés une fois ne veulent qu'une seule chose, c'est y revenir, ne sera-ce que pour pouvoir critiquer à nouveau le Festival de Cannes. Mon premier invité aujourd'hui, Gérard Lefort, a fait 36 festivals de Cannes d'affilée. Mais cette année, il a décidé d'arrêter et surtout, il a décidé de tout balancer dans un livre. La foire aux vanités qui sort chez Hors Collection, ce sont ses souvenirs du Festival de Cannes. Quand c'est pas férocement drôle, eh ben c'est drôlement féroce. Et puis notre deuxième invité qu'on aura au téléphone est un grand commis de l'État, puisqu'il a dirigé le CNC, un haut fonctionnaire comme on dit. Éric Garandeau, en allant à Cannes, a lui aussi chopé le virus. Il nous revient, il nous écrit une fiction inspirée de ce qu'il a vécu dans ce Festival de Cannes. Titre du livre Tapis Rouge et c'est édité chez Albin Michel. Merci d'être de plus en plus nombreux à vous réveiller avec le réveil culturel.
Le réveil culturel. Mercredi, cinéma.
Bonjour Gérard Lefort, cette musique va vous manquer.
Hein. Non, elle ne me manque pas parce qu'il suffit de la réécouter une fois comme on vient de le faire pour réaliser que c'est un classique du festivalier cannois. Dès que ça fait... Je fais bien, non? Bon, eh bien, on sait que le film va commencer, donc éteignez vos portables, regagnez vos places. Et puis j'ai découvert, ça fait des années maintenant, des dizaines d'années qu'il y a cette musique générique, et c'est le même générique, cet extrait du Carnaval des animaux de Saint-Saëns. Et je me suis dit, carnaval, animaux, ne serait-ce pas une facétie des organisateurs du festival à l'époque,
dont Gilles Jacob,
de nous avoir dit, oui, c'était un carnaval, et nous sommes quand même des drôles de bestioles dans ce festival de Cannes.
Vous racontez tout dans la foire aux vanités, qui paraît chez Hors Collection, vos souvenirs du Festival de Cannes depuis le tout premier en 1983 jusqu'au dernier, puisque je crois que vous n'avez raté aucun festival depuis le début.
Non, c'est ma maladie. D'ailleurs, je crois que j'ai battu le record qui était détenu jusqu'à maintenant par France Roche, qui avait fait des émissions d'ailleurs formidables à Cannes, qui s'appelait Reflet de Cannes. Et je crois que France Roche l'a regretté, eh bien, on avait fait moins que moi, finalement, au bout du coup. Donc oui, depuis 1983, tous les ans.
Non, mais vous oubliez quand même Michel Simon.
Hein. Ben, comment oublier Michel Simon?
51e accréditation d'affilée pour lui. Alors, le décor est l'envers du décor, les salles de cinéma, les rencontres, mais aussi la bulle, parce que finalement, c'est une bulle, le Festival de Cannes.
Oui, c'est une bulle, on a l'impression d'être sous cloche, enfin comme s'il y avait un espèce d'énorme igloo virtuel et transparent quand même, mais qui nous surplombe pendant une dizaine de jours, et le reste du monde n'a plus aucune importance. Mais c'est une bulle, vous avez bien raison, c'est quand elle se fissure rarement, c'est un monde à part, voilà, c'est ça que j'ai voulu raconter un peu, un monde à part, ce que j'appelle un pandémonium, un mot qui désigne un monde de bruit et de fureur, voilà, donc je pense que ça colle très très bien avec le festival où le bruit fait fureur, voilà.
Et c'est vu à partir d'un critique de cinéma, d'un journaliste, donc de vos amis journalistes qui vous entourent, et là vous allez voir tout le monde, les metteurs en scène, les stars, les organisateurs, mais aussi les illustres inconnus qui sont attirés par les lumières de cette foire aux vanités, pour reprendre le titre de votre ouvrage, Gérard Lefort. Alors, cette question que vous êtes posée de nombreuses fois, bon, à chaque festival de Cannes, et ben reposons-la aujourd'hui en 2019, c'est la 72e édition qui a ouvert hier avec le film de Jim Jarmusch. À quoi ça sert le Festival de Cannes?
Alors j'ai envie de répondre de façon provocante, à rien. Et c'est ça qui est superbe. C'est-à-dire que pendant une dizaine de jours, on voit censément les plus beaux films du monde dans les meilleures salles de cinéma du monde, en tout cas à l'intérieur du palais des festivals, le fameux bunker. Il y a quelque chose d'une attitude et de gestes complètement gratuit. C'est-à-dire, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on fait là? C'est pas normal de voir des films à 8h30 du matin. Il faut être un peu cinglé. C'est pas normal de les voir à minuit alors qu'on en a déjà vu 4 auparavant. Il y a de l'irréalité, en tout cas, dans le Festival de Cannes. Donc,
ça ne sert même pas à la fameuse industrie du cinéma?
Si, parce qu'il y a un marché du film qui est très important. Moi, j'ai découvert que les angoisses des distributeurs à Cannes, elles tiennent tant à savoir si le film va marcher en salle, mais si on va le vendre à Cannes. Or, beaucoup d'affaires plutôt discrètes dans des belles villas de l'arrière-pays ont lieu à Cannes. C'est-à-dire, est-ce qu'on vend ou pas le film à l'étranger? Et c'est pour ça que la presse anglo-saxonne, par exemple, est tellement importante à Cannes, et les journaux comme Variety ou Hollywood Reporter. Si eux, ils disent « down », comme on dit en anglais, et ben, c'est mal parti pour les ventes dans tout l'Amérique du Nord. S'ils disent « up », c'est plutôt bien parti pour les ventes en Amérique du Nord.
Et du coup, on essaye d'acheter les journalistes vous-même. Est-ce que vous avez eu affaire à ça, Gérard Lefort? Vous racontez plein de choses, vous racontez pas cet aspect.
Mais nous, ça n'est jamais arrivé, hélas, ce qui rend humble, finalement.
Dans quel état vous êtes quand vous voyez les films à Cannes? Oh, vous, les critiques, vous ne dormez pas, vous allez aux fêtes, et quand vous dormez, c'est plutôt dans les salles de cinéma. Est-ce que c'est le meilleur endroit pour voir les films, les juger, les critiquer?
Oui, parce que encore une fois, on est dans un état de nerfs. Voilà. Pour moi, le Festival de Cannes, c'est une immense crise de nerfs qui dure 10 jours avec les effets afférents que vous avez décrits, manque de sommeil, voire manque de nourriture, parce qu'on oublie des fois de se nourrir et que c'est hors de prix de se nourrir à Cannes. Et donc, il y a quelque chose comme ça de oui, c'est, je l'écris, c'est pas un aveu. Je me suis endormi plusieurs fois des séances de cinéma à Cannes. Je suis jamais sorti d'un film, par contre. J'espère toujours à la dernière image qu'il va y avoir une lumière, un dialogue, une musique qui vont rattraper le reste. Bon, et là, je suis souvent déçu. Mais donc, s'endormir à Cannes, c'est une expérience tout à fait spéciale, vu l'état de nerfs et de fatigue dans lequel on est très vite, au bout de quelques jours, parce qu'on rêve pas comme ailleurs. Si on dort, on rêve, et on rêve du film, je crois. Je crois qu'on rêve du film à cause de la lumière, des sons, des dialogues, etc., des musiques. Et j'ai aussi ce sentiment tout à fait étrange que, dans ces moments-là, les films rêvent de nous. C'est quasiment du chamanisme, c'est-à-dire on est dans des états comme ça, oui, presque chamaniques, où on fait partie du film.
Les critiques veulent aussi briller pendant le Festival de Cannes, c'est-à-dire écrire l'article qui va faire tanguer le festival, énerver le producteur ou au contraire plaire à sa star.
Alors les journalistes sont aussi dans des états paranormaux comparables à ceux des acteurs, des actrices, des réalisateurs de tout ce petit monde du cinéma où effectivement ils sont un peu plus critiques qu'ailleurs. C'est-à-dire, alors il y a plusieurs catégories, il y a ceux qui s'enferment dans une espèce de claustrophobie personnelle où ils ne parlent plus à personne parce qu'ils sont effectivement en train de ruminer l'article qui non seulement va révolutionner le Festival de Cannes mais l'histoire du cinéma tout court. Alors ça existe. Il y a ceux que vous connaissez aussi, on donnera pas de nom, qui dès la sortie du film font des éditos, et s'ils sentent qu'il y a une majorité se dessine en faveur du film, ils disent non, c'est une merde, c'est un film, vous vous trompez. Si au contraire ils pensent que les gens sont plutôt réticents, c'est un chef d'œuvre, tu n'as rien compris. Alors il y a des grands spécialistes de ça qui organisent vraiment des mini conférences de presse entre journalistes. Je trouve que l'exercice, alors pour le coup j'ai appelé ça la foire aux vanités, d'une vanité absolue qui s'effondre dans les 10 secondes qui ont suivi les oukas que les uns et les autres lancent. Donc non, ma réaction c'est plutôt de voir si il fait beau à Cannes, de prendre un peu de soleil et puis de commencer à penser à autre chose. Et penser à autre chose, c'est penser au film qu'on vient de voir.
Hein. Et l'article qu'il faudra rendre à une heure très prochaine et très fixe.
Moi, j'ai travaillé que pour des quotidiens. Ça, c'est pas mal non plus parce que vous êtes obligé, ça vous contraint à aller à une idée, une seule chose et pas 36. C'est très difficile de minauder, de tergiverser. Je me mets dedans, moi aussi j'ai fait des minauderies et des tergiversations, mais c'est une discipline, une belle discipline qui n'existe qu'à Cannes, dans un quotidien en tout cas, en l'occurrence quand je travaillais pour Libération, qui fait qu'il faut aller vite et qu'il faut pas. Et quand l'article est raté, ce qui m'est arrivé plus souvent qu'à mon tour, c'est qu'on a voulu trop mettre de choses. Comme, vous savez, il y a des films qui sont trop pleins d'idées, trop pleins d'images, trop pleins d'acteurs, etc. Des articles aussi qui sont trop pleins de mots, qui sont trop pleins de formules et qui ne vont pas à l'essentiel. Moi, j'ai toujours dit, j'avais aucune loi pour moi-même ou pour mes collègues, sinon une idée, un article. C'est déjà pas mal.
Pour être inspiré, il y a bien sûr le film, tout ce que vous connaissez du metteur en scène, tout ce que vous avez entendu autour de la fabrication de ce film. Et ce qu'on apprend, Gérard Lefort, en lisant La foire aux vanités, donc vos souvenirs du Festival de Cannes, c'est que c'est qu'on a besoin de quelques substances illicites, ces coques en stock à tous les étages et à tout, et à tout, j'allais dire à tout moment de la journée. C'est incroyable, c'est-à-dire même une star de la critique de cinéma, à savoir le très regretté Serge Danet, apparaît dans vos mémoires comme sortant, je sais pas, d'un film de Denis Hopper, disons.
Oui, de Denis Hopper. Oui, il y a un chapitre qui s'appelle assez clairement Stupéfiant. Donc je pense qu'on comprend de quoi il s'agit. C'était une époque aussi. Ça m'a concerné surtout au début des années 80. Enfin, quand les premières fois je viens à Cannes en 83, le slogan c'était Suivez la ligne blanche. Voilà, et pas qu'à Cannes. Donc on continuait à suivre la ligne blanche. Alors ça met dans des états d'impatience, de pseudo-intelligence, de célérité, de paranoïa totale. Moi, j'ai réellement cru que notre bureau cannois, qui à l'époque était à l'intérieur du bunker au deuxième sous-sol, en dessous du niveau de la mer, eh bien, était sous surveillance. De qui, de quoi, je ne sais pas, mais bon, vous savez. Alors, est-ce que la drogue, puisque vous l'appelez par son nom, rend plus intelligent, plus beau, plus brillant? Peut-être, mais rien n'est plus terrible que la fameuse redescente qui ressemblait, en tout cas en ce qui me concerne, à une sorte de saut à l'élastique, mais sans élastique. Donc j'ai depuis renoncé, je vous rassure.
Bon, est-ce que tout le monde est comédien? Gérard Lefort, quand on lit cet épisode, mais vraiment très drôle, quand vous allez interviewer James Ivory, alors que vous ne comprenez pas anglais, et que vous ne comprenez rien de ce qu'il vous répond, et que pourtant le lendemain, il fallait sortir une interview, c'est quoi? On est dans un rôle?
Alors là, c'était une fiction. C'est-à-dire avec ma collègue, ma regrettée collègue, Louella Intérim, qui elle était complètement fan d'Ivory, de la littérature anglo-saxonne, nous découvrons sur le chemin qui nous menait à l'entretien avec Jackson Ivory que ni elle ni moi ne parlions très très bien l'anglais. Enfin, c'est un euphémisme, c'est-à-dire pas du tout. Donc je dis, on va renoncer, il n'y a pas d'interprète, l'attaché de presse nous avait prévenu, il ne parle qu'anglais, c'est américain, l'anglais d'Oxford en plus. Donc je dis, on va jeter l'éponge. Et Louella me dit, pas question, on est des vrais professionnels, on va tout inventer. Donc non seulement on fait un entretien où on pose une question et il répond pendant une heure, je prends vaguement des notes, je crois comprendre que quand il dit... Julie Christie, qui était l'actrice de Chaleur et Poussière, son film Is Gorgeous, moi j'imagine qu'il a voulu l'égorger, pas du tout, ça veut dire qu'il la trouve formidable. Et donc on rentre au bureau et là je réitère mon angoisse à Louella Intérim, je dis bon ben on laisse tomber, c'est pas possible. Elle me répète non, on est des vrais professionnels. Elle se jette sur sa machine à écrire, car à l'époque on travaillait à la machine à écrire, et elle tape je sais pas combien de feuillets d'une interview donc qui non seulement, enfin a eu lieu, mais il n'a jamais répondu à des questions que nous n'avons jamais posées. Et la fin de l'histoire est formidable. Alors là, on est dans une vraie fiction. Le lendemain matin, l'attaché de presse du film nous appelle en disant que M. Ivory s'est fait traduire en anglais notre entretien et qu'il a estimé que c'est le meilleur entretien qu'il ait jamais fait au monde. Quelle classe! Et figurez-vous que j'ai rencontré James Ivory au début de l'année à Lyon, un petit festival formidable, et sur la pointe des pieds, j'ose demander à ce très vieux monsieur de 92 ans maintenant s'il s'en rappelle. Non seulement il s'en rappelle, mais il en rit encore.
Les souvenirs du festival de Cannes par Gérard Lefort, ça s'appelle La Foire aux Vanités, c'est édité par Hors Collection. C'est pas seulement l'histoire du festival de Cannes depuis votre première accréditation en 1983, c'est aussi la géographie de Cannes.
Oui, c'est une ville aussi qui est fictionnée par le festival. Je veux dire par là qu'il y a le Cannes du festival, puis une autre ville de Cannes, tout à fait sympathique, normale, avec des écoles, des lycées, des restaurants où on paie moins de 45 euros le sandwich. Et donc, ces deux villes, et d'ailleurs l'une ignore royalement l'autre, impérialement l'autre. Le Cannes du cinéma, et c'est rien du tout, c'est quelques centaines de mètres carrés, et puis il y a une autre ville qui, comme ça, surplombe un peu le... Donc, on est dans une ville qui n'existe pas. J'ai un jeune collègue, il y a quelques années, quand il arrivait à Cannes, on sort du train, on est à la gare de Cannes, et il s'arrête, et je vois qu'il était très dubitatif, il se retourne vers moi, il me dit, mais elle est où la mer? Et j'ai dit, ben, c'est une bonne question, parce que la mer à Cannes, elle n'existe pas, c'est un décor parmi d'autres. Donc il a dit, ah bon, on va faire avec ça, il me dit, donc on est arrivé dans une fiction. Je dis, oui, on est arrivé dans une fiction. Ah.
Les fêtes, c'est très important à Cannes, Gérard Lefort.
Oui, c'est très important, parce que, oui, ça fait partie de l'emploi du temps d'un festivalier. vraiment, on a, à Cannes, on a envie de faire la fête, quoi, tout simplement. Et donc, ça a été, dans les années 80 et 90, ma foi, c'était pas aussi organisé qu'aujourd'hui. C'était pas fliqué, c'était pas filtré, c'était pas de la pure promotion. C'était, oui, tiens, où est-ce qu'on va aller organiser l'apocalypse cette nuit, quoi, en gros. Et ça, il faut rendre grâce à un homme et un seul, c'est Maurice Tinchamp, qui a été une sorte de génie d'organisation des fêtes à Cannes. Je vous dirais pas que n'importe qui y entrait, mais presque. Et puis, moi, je me disais, bon, ben, c'est ça, c'est, il organise le désordre. Puis, il m'a avoué des années après que oui, il organisait le désordre, au sens, il avait donné consigne aux gens qui filtraient les entrées, de laisser entrer les jeunes. Pourquoi ? Mais il disait, ça mettait de l'ambiance. Ça, pour ça, ça mettait quelques charmants sauvageants, comme disait l'autre. Ça filtrait souvent. Bon, alors, bon, ils se payaient en cigarettes et autre chose, à droite, à gauche. Mais comme ils étaient tous jeunes, beaux et qui dansaient comme des dieux, moi, je trouve que c'est pas cher payé de se...
C'est plus le cas aujourd'hui. Hein.
C'est plus le cas aujourd'hui du tout, puisque la moindre... Vous savez, c'est l'association des bonnets de nuit cannois qui a gagné, c'est-à-dire les fameux riverains qui supportent pas que passé minuit, il y a un peu de musique et qu'il y ait des gens qui crient un peu fort, qui rient et qui s'amusent.
Bon, Gérard Lefort, il y a aussi toutes vos histoires avec les stars, mais ça, on va le découvrir en lisant votre livre, La foire aux vanités, avec La Deneuve, comment se réconcilier avec La Deneuve, mais il y a aussi Gérard Depardieu, il y a Jean-Paul Belmondo, un déjeuner très agréable avec Jean-Paul Belmondo, mais il y a une histoire, alors, on rigole, parce que c'est très drôle, hein, pour ceux qui connaissent votre plume, il y a un moment dramatique dans la vie d'un critique de cinéma, c'est ce rendez-vous raté avec Marlène Dietrich.
Ça, c'est une histoire merveilleuse. Enfin, c'est comme des failles spatio-temporelles. Une année, une photo de Marlène Dietrich fait l'affiche du Festival de Cannes et elle meurt le jour de l'ouverture du festival. Donc on dit, c'est pas possible, elle l'a fait exprès. Enfin, c'est... Bon, voilà. Donc on travaille, machin, la nécrologie de Marlène, etc. Et d'un seul coup, une autre faille spatio-temporelle s'ouvre, en tout cas dans ma mémoire. C'était que des années auparavant, un jour, au bureau de Libération, le téléphone sonne, je décroche... Bonjour, bonjour monsieur, oui bonjour madame, c'est Marlène Dietrich au téléphone, je voulais vous parler d'un article que vous avez écrit sur un de mes films et vous vous êtes trompé dans une date. Et moi je ricane, je fais oui c'est ça, et moi je suis Marine Monroe, je dis pas ça, mais je le pense. Je dis quel est le salopard de collègue en train de me faire la très mauvaise blague, allô c'est Marlène Dietrich. Puis d'un seul coup, la voix, le phrasé, et je dis, maman chérie, c'est vraiment Marlène Dietrich qui me parle. Et voilà, elle avait repéré une erreur dans un papier que j'avais fait sur une rediffusion de l'Impératrice Rouge à la télévision. Et elle avait raison, mais là vous chaussez du 12, enfin même pas du 12, du 7,5. Merci madame, au revoir madame. Et elle me dit, je vous laisse mon numéro de téléphone à Paris, au cas où. Bon, très bien. Des années plus tard, 89, le mur de Berlin tombe et je dis, mais... Je vais appeler Marlène Dietrich, puisque j'avais gardé son numéro. Avant de retrouver le numéro de téléphone, j'ai massacré la moitié du bureau. Je retrouve sur un petit carnet, j'appelle Marlène Dietrich, qui me répond, toujours en me disant, oui, bonjour. Et je lui dis, bonjour madame, est-ce que vous vous souvenez ? Je me souviens très bien, monsieur Lefort, enfin bon, bref. Et je lui dis, et avant que j'ai pu poser un moment de question, elle me dit, vous m'appelez pour le mur ? Je dis, ben oui, je vous appelle pour le mur. Elle me dit, ah oh, oui, ben je veux bien parler de ça. Et je dis, écoutez, laissez-moi un petit moment, je dois demander à ma chefferie, à mon chef, voilà, quelle place on a, etc., les délais. Je raccroche, je fonce à ce qu'on appelle le central dans un journal, c'est-à-dire l'édition centrale du journal. Et là, je tombe sur un chef dont je préfère oublier le nom, car ce couillon...
Enfin, c'est l'âge d'or de Libération, ça on peut le dire. Hein.
Oui, mais enfin, ce couillon me dit, oui, t'es sûr, Marlène Dietrich, plus personne la connaît, puisque c'est vraiment intéressant, et puis on n'aura pas de place et tout. Donc je compose, je développe des trésors de diplomatie, et je finis par arracher que j'aurai une page pour interviewer Marlène Dietrich et tout. Je remonte en courant mon bureau, je recompose au numéro de Marlène Dietrich, occupée, l'horreur. Mais au bout de 6 ou 7 tentatives, elle redécroche et elle me dit, écoutez, monsieur Lefort. Non, elle me dit, écoutez, mon ami, trop tard, j'ai donné l'interview au Figaro. Et là, j'ai failli mourir.
Et le lendemain, vous pleurez, c'est ce que vous écrivez, Gérard Lefort.
Je pleure de rage parce que le papier paraît dans le Figaro sur 2 pages et c'est évidemment magnifique car il n'y avait pas plus berlinoise que Marlène Dietrich, évidemment.
Gérard Lefort, pourquoi vous avez décidé que c'était fini pour vous le Festival de Cannes? Parce que vous n'allez pas le couvrir cette année, même si vous venez aujourd'hui, on peut vous chahuter en allant à la FNAC de Cannes parce que vous allez...
J'espère qu'il va y avoir du chahut, des bagarres, comme ça, ça va nous rajeunir.
Et vous allez signer donc votre livre, La foire aux vanités, vos souvenirs du Festival de Cannes, édité chez Hors Collection. Alors pourquoi ce divorce avec Cannes?
Bah, c'est pas un divorce, c'est une séparation à l'amiable. C'est-à-dire que moi, j'ai eu le sentiment dans les dernières années que j'étais un peu en roue libre. Voilà, que j'avais une impression de déjà vu, déjà lu et hélas de déjà écrit. Donc je me suis dit, c'est peut-être le moment un petit peu de lever le pied. C'est pas dire, l'année prochaine, je serai président du jury, bien sûr, tout le monde le sait, je vous donne un scoop, comme ça, vous pourrez le répercuter. Mais plus sérieusement, un effet comme ça de ronronnement, de doux ronron, quoi. C'est quand même, il faut le répéter, que les journalistes qui se plaignent d'être à Cannes sont des gens foutres, quand même. On voit les plus beaux films du monde dans les plus belles salles de cinéma du monde, que dire, demander de plus. Bon, mais moi, j'ai eu ce sentiment, mais très personnel, que c'était une fin de partie, voilà, un truc. Mais c'est pas du tout triste ou nostalgique, c'est la vie continue, puis ce livre est arrivé un peu comme une conclusion, quoi, mais de conclusion joyeuse, parce que j'ai aucune nostalgie. Donc ça tombe à pic, quoi, voilà.
Merci Gérard Lefort.
Merci à vous.
La Foire aux Vanités, c'est édité par Hors Collection. Et dans un instant sur France Culture, un autre livre qui parle du Festival de Cannes. Et cette fois-ci, c'est une fiction signée Éric Garando, Tapis Rouge. Éric Garando, bonjour.
Bonjour.
Vous vous apprêtez à aller au Festival de Cannes, vous ne ratez plus ce festival depuis votre premier Cannes, c'est-à-dire en 2004, et il vous a inspiré cette fiction complètement foutraque qui fait rencontrer la logique de la géopolitique avec les logiques du Festival de Cannes. Ça s'appelle Tapis Rouge et c'est édité chez Albin Michel. Éric Garando, le Festival de Cannes vous a inspiré cette fiction qui est complètement hallucinante. On peut raconter un peu peut-être l'intrigue de votre roman, Tapis Rouge. Il s'agit quand même d'une république ex-soviétique, orientale, on peut le dire, tenue par un dictateur. Et ce dictateur a une fille qui rêve de faire le Festival de Cannes, de gravir les marches du Festival de Cannes et de décrocher la Palme d'Or. Et on se rend compte que c'est possible de négocier avec le Festival de Cannes et surtout avec les hommes politiques et les diplomates français avec cet échange, une palme d'or pour un contrat signé par exemple.
Alors ça c'est effectivement le pitch comme on dit dans le cinéma. Après évidemment on va se rendre compte que c'est beaucoup plus compliqué et d'ailleurs l'idée n'était pas de dire que le Festival de Cannes était susceptible d'être corrompu, pas du tout. L'intégrité des choix artistiques au Festival de Cannes est totale et donc il fallait trouver une façon de faire, donc sans vouloir dévoiler toutes les ficelles de l'intrigue, ça a été un défi amusant et stimulant de faire que ce roman d'aventure un peu picaresque avec cette quête absolument insensée, mais qui est réelle, hein, parce que j'ai rencontré quand même beaucoup de producteurs, de cinéastes qui rêvaient effectivement de venir au Festival de Cannes. Donc c'est une forme d'hommage qui est rendue au festival. Mais par ailleurs, il y a aussi un enjeu que j'ai connu en m'occupant d'un programme qui s'appelait Women in Motion, qui défend les femmes de cinéma. On sait qu'il n'y a eu qu'une seule palme d'or féminine au Festival de Cannes, et d'ailleurs elle a été partagée avec Chen Kaige, c'était la palme d'or de Jane Campion pour son piano. Et la question, tout l'enjeu aussi de ce livre, c'est de savoir est-ce qu'il y aura une deuxième palme d'or féminine. Et c'est aussi un enjeu évidemment du festival d'aujourd'hui, puisque les femmes sont très mobilisées, comme vous le savez, pour que la parité soit assurée et que on ait enfin une deuxième palme d'or féminine. Donc le roman est pas du tout politiquement correct, mais néanmoins il reflète aussi ses préoccupations du moment.
Est-ce qu'on peut dire que le Festival de Cannes peut devenir une arme politique ou un instrument pour les diplomates français pour faire avancer certains dossiers, certains marchés, pour libérer des otages, parce que il s'agit de tout cela dans Tapis Rouge, dans votre roman, Éric Garando.
Oui, parce qu'en fait, le héros effectivement se retrouve rembringué dans cette histoire un peu rocambolesque, et en fait, il met le doigt dans un engrenage qui va l'entraîner très loin. C'est une comédie, encore une fois, c'est une fiction. Donc je dirais que le fait que le Festival de Cannes soit pris en otage, c'est vraiment du ressort de la fiction. Néanmoins, on peut imaginer qu'un concours de circonstances fasse que des personnes se trouvent un peu piégées par ces histoires. Et il est vrai aussi que dans ces pays-là, j'ai eu la chance d'aller au Kazakhstan, ce qui m'a fait une forte impression. Bah, c'est vrai, effectivement, ce sont des dictatures là pour le coup assez totales. Et certaines figures de la vraie vie, hein, des filles de dictateurs, ont des vies complètement extravagantes. Donc c'est effectivement un petit peu une réinterprétation d'un conte oriental où la fille du roi a tout ce qu'elle veut, mais elle demande non pas la tête de Jean-Baptiste, mais la palme d'or. Donc voilà, c'est plus un hommage qui est rendu à la puissance de ce festival, à ce qu'il inspire justement comme désir, tout en montrant qu'évidemment ces désirs, il y a parfois des désirs très nobles, parce qu'il y a des vrais cinéastes qui ont des films absolument extraordinaires qui méritent d'aller à Cannes. Et puis évidemment, il y a d'autres personnages comme cette héroïne qui effectivement y va peut-être pour de moins bonnes raisons, plus pour des soucis de gloire personnelle. Mais c'est vrai que le tapis rouge, c'est aussi le tapis des vanités. La foire aux vanités, comme dit Gérard Lefort.
Voilà. Merci Éric Garando. Je rappelle que votre roman Tapis rouge d'Éric Garando est édité par Albin Michel. La foire aux vanités de Gérard Lefort est disponible chez Hors Collection et le Festival de Cannes. 72e édition, c'est belle et bien parti. Vous aurez sur France Culture des comptes rendus tous les matins par Antoine Guillot à la fin du journal de 8h, en entendant l'arrivée ce vendredi de Guillaume Erner sur la Croisette et de la Grande Table à partir de lundi. Nous, on se retrouve demain, et on va parler d'autre chose que le Festival de Cannes, bien sûr. Bonne matinée, à demain.